la COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez lequebec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
Ôtez-vous de là!
Attention, pas pour les doigts!
Dans le retour, 17h08, c'est les salles des nouvelles pour encore presque une heure en attendant le show du Grand Nick où on va dire des choses pas mal contraires à ce qui se véhicule ici. C'est comme ça qu'on se rapproche un tant soit peu de l'objectivité, puis on travaille fort là-dessus à CJMD. 969FM.ca pour pas mal tout. Si vous voulez encourager, d'ailleurs, il y a moyen d'acheter des cartes de bingo. Vous pouvez gagner jusqu'à 1200$ d'une traite. On a un gagnant qui a déjà été jusqu'à près de 2000, tu crois?
Oui, on avait 1200 plus 500, ça faisait 1700.
En plus, on a toutes sortes de prix superflus, j'allais dire. C'est pas ça le mot.
Non.
Au surplus.
Oui.
Notamment Snacktown avec les munchies des plus international de la région. Ça se trouve à côté de la SQDC sur Président Kennedy. En passant, comment ça va dans la circulation?
Eh bien, ça va bien. La capitale, direction Est, ça ralentit. Laurentienne, direction Nord, ça ralentit. C'est les deux seuls secteurs où, présentement, il y a quelque chose à signaler. Pour ce qui est du reste, on est au vert.
Quelques petites affaires à signaler dans la météo, la neige, entre autres.
Bien, surtout que c'est doux à l'extérieur. Il fait 2 degrés.
Merci d'être dans le positif.
Oui, pour ce soir et cette nuit, zéro avec à peu près 5 cm de neige. Et la neige se poursuit pour jeudi avec un autre petit 5 cm de neige, mais 1 degré. Pour vendredi, plutôt nuageux avec moins 13. Et pour en fin de semaine, samedi, ciel variable avec moins 12. Et dimanche, quelques petits flocons de neige, 1 cm avec moins 9.
La science est utilisée à tort et à travers depuis toujours, mais le mot, depuis 2 ans, spécialement, on a au bout du fil quelqu'un qui est un scientifique et qui veut nous parler de recherche en général et peut-être nous faire une démonstration que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est publié que sa valeur d'évangile. Rénal Duberger, salutations.
Bonjour Guillaume.
Comment ça va?
Ça va très bien.
C'est-tu toi qui as vu un arfan des neiges ou c'est Vincent?
Ah, c'est Vincent, mon neveu, qui, en quittant chez moi hier, a photographié ça dans un de mes arbres. C'était pas un arfan des neiges, c'était une chouette qu'on appelle la chouette de Lapone, de Laponie.
Ah ouais, encore plus rare. Moi, j'ai déjà vu des arfans, j'avais jamais été témoin de... Une belle visite comme ça. T'as beaucoup de faune dans ton...
J'ai des lièvres aussi. Il y a même des Amérindiens qui viennent tendre des collets sur ma propriété. Ils ont un droit que moi, j'ai pas. Et puis, il y a des chevreuils, évidemment. Ouais. Il y a des orignaux, de plus en plus, depuis qu'ils ont installé des éoliennes dans les montagnes derrière le Mont-Sainte-Anne.
T'es sur la côte de Beaupré, quoi?
Moi, je suis au bord de la rivière Montmorency, à Bois-Châtel, dans un endroit de rêve. Il faudrait que tu viennes voir ça un jour.
Bien, assurément. En plus, je m'en vais pas trop loin de là en fin de semaine. On se reparle de ça hors d'onde, Rénal. Ben oui, c'est vrai, ça a l'air d'un beau coin. Ça me tente bien. Mais ça me tente bien aussi de parler de recherche avec toi qui en a fait, qui connaît le domaine en soi et qui remet bien des recherches en question à bien des occasions. Alors là, je regarde notre préparation. Tu sais, tu parles de ce qu'on appelle peer review en anglais. Le terme exact francophone m'échappe.
Peer review, en français, on pourrait traduire ça par revue par les pairs. Voilà. P-A-I-R-S, ça veut dire les scientifiques qui sont dans ton domaine.
C'est un processus, quand on publie une recherche universitaire, qui est obligatoire pour avoir quelque crédibilité que ce soit.
Exactement. Mais... Toutes les grandes revues scientifiques qui publient la recherche en médecine, en climat, en géophysique, comme dans mon domaine à moi, sont contrôlées par des sociétés savantes qui publie des revues. Et puis, il y a des comités de lecture qu'on appelle. C'est formé de pairs qui décident qu'un article est acceptable ou pas acceptable. C'est bien rare qu'un article qui est soumis par un chercheur dans une revue scientifique est accepté tel quel. C'est très rare. Okay. Il peut être accepté avec modification mineure, modification majeure ou rejeté.
Je voyais que tu veux parler de climat, de géologie, de médecine. Est-ce que tu as des exemples
Il y a eu des très longtemps de ça. Moi, je finissais mon mémoire de maîtrise sur les tremblements de terre dans la vallée du Saint-Laurent. J'avais récolté des données sur les petits tremblements de terre de Charlevoix-Kamouraska. Je voulais avoir un avis pour ma publication de la part d'un géophysicien qui était professeur à Laval. Il s'appelait Maurice Séguin. Il est décédé, ça fait longtemps. Okay. Je rentre dans son laboratoire, puis il est en train de mesurer la conductivité électrique sur des carottes de roche. Alors, il m'explique qu'il avait inventé des électrodes de plexiglas dans lesquelles il coulait du mercure pour assurer un bon contact électrique entre les bouts de la carotte puis les électrodes. Il faisait circuler le courant là-dedans puis il mesurait la résistivité. Alors, moi, j'ai dit, si on tourne la carotte d'un quart de tour, on peut-tu essayer? Je tourne la carotte d'un quart de tour, la mesure a doublé. Ce qu'il avait oublié, c'est que le courant électrique dans une roche, ça ne circule pas également facilement dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle de l'anisotropie. Hein? Un matériau anisotrope, il n'y a pas les mêmes propriétés, ça peut être électrique, optique, mécanique, dans toutes les directions. Mais pour lui, c'était pas grave. Il y avait un chiffre, il obtenait un chiffre, il obtenait une mesure, il obtenait une donnée. Il a publié ça tel quel dans Journal of Geophysical Research, et puis 5 ou 6 mois plus tard, c'est sorti, sans qu'aucun des peer reviewers, qu'on appelle les réviseurs critiques, ne se soit aperçu de rien. En fait, ces réviseurs-là n'avaient pas vu ce que moi j'avais vu, l'anisotropie. Ces mesures-là ne valaient rien.
Les reviewers, c'est des gars avec des PhD, tout était à maîtrise là, au niveau de comment.
C'est ça, je finissais ma maîtrise. Mais plusieurs années plus tard, quand j'étais professeur à l'Université de Québec à Chicoutimi, j'ai moi-même mis en évidence une anisotropie, mais à une échelle beaucoup plus grande dans la croûte terrestre, quand j'ai mesuré les vitesses de propagation des ondes sismiques en utilisant des explosions dans les carrières de calcaire avec mes sismographes. Puis je me suis aperçu que les ondes sismiques qui voyageaient parallèlement au graben du Saguenay allaient plus vite que celles qui traversaient en dessous du graben du Saguenay. C'était de l'anisotropie. Okay. C'est un phénomène intéressant. Mais il y a pire que ça. Ça, c'est un chercheur qui, d'ailleurs...
Ça a été tes premiers contacts avec ça. J'imagine que c'est demeuré. Ça t'a généré un suspicion sain par la suite quand t'as pu...
Puis pas rien que ça, Guillaume. Ce chercheur-là qui utilisait du mercure, il avait répandu du mercure par terre, puis il est parti cet été-là faire la consultation, je sais pas où, dans le nord du Québec. Okay. Le balayeur... Tous les soirs, prenait un petit peu de mercure de son laboratoire, puis il allait le porter au bout du couloir dans l'autre laboratoire d'un géochimiste qui mesurait des parties par billion, pas million, billion, sur le mercure qu'il utilisait comme élément traceur pour faire de l'exploration minière. Puis les mesures du géochimiste ne marchaient plus, étaient toutes fuckées, comme on dit en bon français, à cause du mercure qui contaminait son laboratoire.
Ça, c'est une bonne histoire.
Ah oui, ça s'est passé à la grande Université Laval.
Fait que, vas-y, Chico.
Coudon, finalement, on peut peut-être pas lancer tellement de roches au laboratoire de Wuhan.
Non, il y a des choses comme ça qui se passent un peu partout, mais il y a pire que ça. Il y a des chercheurs, Guillaume, qui décident qu'une hypothèse qu'ils ont posée, elle est vraie. Puis ils vont s'organiser pour que les données qu'ils récoltent ou qu'ils vont publier confirment cette hypothèse-là. Ça veut dire qu'il y a des échantillons peut-être dans leurs mesures qui font pas leur affaire. Ils vont les enlever. Je vais te donner un exemple. Quand il y a eu le tremblement de terre du Saguenay, on a essayé de trouver la faille. Hein? On a tout fait pour la trouver. On a fait faire un relevé radar aérien du parc des Laurentides, là où le tremblement de terre s'est produit. On a eu ce qu'on appelle des linéaments, des lignes qu'on voit là sur le résultat. Et puis, j'avais un collègue, moi, qui voulait absolument que cette feuille-là soit reliée au Grand Bec du Saguenay. Donc, il a utilisé un logiciel d'analyse de linéaments qui avait tendance à mettre de côté toutes les directions qui ne faisaient pas notre affaire pour arriver à une direction préférentielle parallèlement au Grand Bec du Saguenay. Moi, j'ai arrêté ça là. J'ai dit non, on ne va pas utiliser ça. Le foyer du tournementaire, il est à 30 km de profondeur. Il y a très peu de chances que ça laisse une cicatrice visible en surface. D'ailleurs, il y a un seul tremblement de terre dans l'histoire connue là, des tremblements de terre de l'Est du Canada qui a créé une rupture visible en surface, c'est celui de Longava de 1989. Il n'y en a aucun autre. Donc, les tremblements de terre sont trop profonds pour ça. Mais mon collègue chercheur aura bien voulu qu'on mette en évidence une faille parallèle au Saguenay, et puis ben, ça n'a pas marché. Mais dans d'autres domaines, la médecine...
Tu ne vas pas me dire qu'il y a des gens, des climatologues qui font des modèles. Moi, les modèles pour la COVID m'ont fait beaucoup rire à bien des occasions. C'est le même genre de truc où tu mets une donnée et tout est faussé. Ça se peut pas que ça arrive avec le climat, Rénal, impossible. L'apocalypse s'en vient.
Ça arrive dans tous les domaines. Moi, j'ai des amis médecins, chercheurs, qui ont fait de la recherche en médecine, qui m'ont dit qu'il y avait du tripotage de données. Quand vous avez un échantillon de 2500 patients, et puis il y en a qui correspondent pas trop, ils n'arrivent pas. Ouais. Ils vont nuire à votre conclusion. Vous allez simplement les éliminer. Vous allez trouver une façon de les éliminer. Vous allez vous dire c'est du bruit ou c'est des gens qui correspondent pas aux critères de sélection de vos patients. J'en viens au fameux docteur Raoul.
Okay.
On appelle Raoul. Moi, j'ai déjà eu de la considération pour ce gars-là. Ça fait au moins 6 ans, 7 ans que je connais le docteur Raoul, bien avant la pandémie, parce que ce gars-là a publié des livres, entre autres, un qui s'appelle « Arrêtons d'avoir peur ». Très intéressant.
Mais c'est un gars qui publie énormément. D'ailleurs, ça lui a été reproché.
Oui, oui. Mais là, c'est un livre tout à fait. C'était pas une publication du comité de l'Exo. C'est un livre abordable par tout le monde. Arrêtons d'avoir peur. J'ai beaucoup aimé son bouquin. D'ailleurs, il y a une couple de chapitres sur Darwin là-dedans. Il passe à la varlope, comme on dit. Darwin, c'est sûr, bon, parce qu'on va pas mettre en cause, en question, sa théorie d'évolution. Mais Darwin a tourné pas mal de coins ronds, puis que Raoul reprend.
Mais d'ailleurs, je suis en train de lire L'origine des espèces, puis il prend des précautions. Il essaie d'expliquer que ça a été compliqué de mettre ça concis, là, et que ses recherches sont pas terminées.
Ouais. En fait, un des gros défauts de Darwin sur l'être humain, entre autres, là, qui considère qu'il y a différentes races, entre guillemets. Il y a une race humaine avec de différentes couleurs, c'est tout. Il y a juste une race. Mais, pour en revenir à ce Raoul, moi, d'ailleurs, c'est un climato-réaliste comme moi. Il met en doute la contribution principale de l'homme au changement climatique. Mais, quand est arrivée la pandémie, au début, bon, je trouvais c'est intéressant ce qu'il faisait. Il traitait des patients. C'était d'abord un médecin avant d'être un chercheur. Mais là où il est tombé dans l'erreur, c'est qu'il y avait des échantillons pas assez importants en nombre.
Il a effectivement éliminé des patients.
Ouais, c'est ça. Il y avait toujours la condition que son traitement devait marcher à condition qu'il soit appliqué dès le début. Puis l'autre chose, c'est que Raoul est devenu un peu trop cabotin, un peu trop... son ego s'est gonflé.
Moi,
il a senti qu'il y avait un fan club derrière lui.
Ouais.
D'ailleurs, un bout de temps, c'était à Marseille contre Paris, rappelez-vous.
En même temps, à force de se faire... Il s'est fait casser du sucre sur le dos de façon indue, de plein d'angles aussi. En même temps, ça peut rendre quelqu'un amer puis plus cabotin que sa nature le commandait.
En fait, il y a des chercheurs, Guillaume, quand ils voient que quelqu'un sort trop de la masse et est trop populaire, ils ont tendance à le rabaisser. C'est ce qui s'est produit.
Et d'ailleurs, son institut de recherche publie énormément plus avec un budget équilibré que son voisin, et il dit, lui, en tout cas, qu'il y a une partie de jalousie là qui a commencé à causer que le fait qu'il soit controversé. Oui, il y a de ses actions aussi. Mais moi, j'y donne un peu de break quand je pense que c'est le seul qui parle de l'effet nocebo dans tout ça. Et en tout cas, c'est le premier à en avoir parlé. Puis là, il y a une étude du CHU de Paris qui amenait que 27 000 patients testés disant avoir la COVID longue. Là-dessus, il y en avait seulement 1200 qui avaient des anticorps pour la COVID. Donc, ouais, ils l'avaient eu. Mais pour s'éloigner de la COVID, on reviendrait peut-être au climat. Et j'ai parlé au recteur de la recherche de l'UQAR hier. Il me disait, tu sais, dans des domaines comme le climat, c'est difficile qu'il y ait des billets BIAS, AIS, qui tiennent la route longtemps parce qu'il y a tellement de gens qui se sont penchés un après l'autre sur le domaine que ça n'aurait pas pu se maintenir. J'ai des doutes là-dessus. J'imagine que c'est ton cas aussi.
En fait, dans la recherche, il y a une question qu'il faut poser aussi. À qui ça profite? Cette question d'alarmisme climatique, ça profite d'abord à des politiques parce qu'ils peuvent vous soutirer de l'argent sous forme de taxes de carbone, puis ils peuvent vous maintenir, en fait, assujetti à un problème. Ça profite aux médias parce que s'il n'y a pas de catastrophe menaçante, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien à publier, c'est pas drôle.
Plus être sensationnaliste d'un coup.
Ça profite aux chercheurs, hein? Ouais. Tant que vous continuerez de croire que l'être humain est le prédateur de la planète, c'est lui qui change le climat, et puis qu'on court vers la catastrophe, l'argent va rentrer dans les coffres d'organismes comme Uranos, hein, qui a été sauvé in extremis là, par l'ancien gouvernement libéral, et puis à des chercheurs d'université, que ce soit de Laval, de McGill, de ma propre université UQAT. Tant que vous allez croire à ça, vous allez voter, et puis les gouvernements vont dire le réchauffement climatique causé par l'homme, c'est un problème, il faut qu'on y consacre de l'argent. L'argent va rentrer dans les coffres de ces gens-là. Mais dès que vous allez commencer, comme moi, à poser des questions, puis à challenger ceux qui font des affirmations, là, l'argent va moins rentrer.
Mais je vois pas qui peut financer une théorie avec une hypothèse rassurante sur les changements climatiques actuellement, parce que même les compagnies pétrolières, au moment où on se parle, ont bénéficié de cette tangente-là à être alarmistes. Ils ont des crédits d'impôt à chaque fois qu'ils peinturent un projet en vert, etc. Au début, ils en ont financé quelques-unes, puis ils se sont bien rendus compte que le monde dénonçait ça. Dès que c'était financé par une pétrolière, c'était discrédité. Alors, ils ont changé de stratégie. Puis ça a encore plus cristallisé le phénomène dont on parle.
En fait, tous les chercheurs ont intérêt à arrimer leur projet de recherche à ce pseudo-problème climatique. Par exemple, un biologiste qui étudie telle espèce dans le Grand Nord canadien, puis qui constate qu'ils se reproduisent beaucoup moins maintenant qu'ils se reproduisaient il y a 50 ou 100 ans, a intérêt à accuser le changement climatique comme problématique pour son étude, parce qu'il risque d'avoir plus d'argent, parce que nos gouvernements ont reconnu qu'il y avait un problème. Il n'y en a pas de problème. Hein? Mais autres, ils pensent qu'il y en a un. Ils ont affirmé qu'il y en avait un. Puis tout chercheur qui peut arrimer son sujet de recherche à ce pseudo-problème-là, il a plus de chances d'être financé que celui qui met ça de côté.
Ou à l'opposé, prouve que dans certaines zones, ça fait proliférer certaines espèces. Là.
Moi-même, Guillaume, quand il y a eu le tremblement de terre du Saguenay, j'aurais pu faire comme ces gens-là, puis leur faire peur pour leur dire, donnez-moi de l'argent, on va résoudre le problème, on va étudier la zone où il y a eu le tremblement de terre, puis on va essayer de voir s'il risque d'en avoir d'autres. J'ai pas fait ça. Je suis allé dans les écoles, j'ai rassuré les jeunes, les enfants, j'ai parlé aux parents, j'ai démystifié le phénomène, j'ai calmer leur peur plutôt que faire comme les climato-alarmistes qui font présentement. Ils font peur aux gens pour avoir de l'argent. Moi, j'ai fait le contraire. Après le tremblement de terre, je suis allé voir les gens, je dis calmez-vous, je vais vous expliquer c'est quoi un tremblement de terre. Marie Curie a dit, on ne craint que ce qu'on ne comprend pas. J'ai expliqué le phenomène. Par exemple, je suis descendu dans le sous-sol avec une dame qui était une artiste à Chicoutimi. Ça faisait un mois qu'elle n'était pas descendue dans son sous-sol où avait son atelier parce que le mur était renfoncé par le tremblement de terre. Je l'ai pris par la main, on est descendu ensemble, je l'ai calmé, Puis, il y a des parents qui m'ont téléphoné. Ils ont dit, merci, M. Duberger. Mon petit gars, ça faisait 3 mois qu'il ne voulait plus coucher dans sa chambre. Et tout seul, mais, il voulait coucher avec nous autres à cause du parlementaire. Vous y avez parlé, vous l'avez rassuré.
Bravo.
Autrement
transfert
dit,
au
j'ai
climat.
Fait le contraire d'aller chercher de l'argent. J'ai fait le contraire de faire peur au monde. Je les ai rassurés.
C'est bon pour la santé.
Que les climatologues fassent la même chose que moi j'ai faite en sismologie.
C'est bon pour la santé d'être rassuré. Je parlais de l'effet nocebo, il y a l'effet placebo. Et il y a de la climato-anxiété présentement, on le voit. Et moi, j'ai peur que ça soit la prochaine raison pour une vague de contrôle extrême puis de lever des principes fondamentaux de la démocratie. Mais je voudrais voir dans d'autres domaines des équivalents parce que là, les recherches qui contredisent le dogme, donc anthropique, l'homme est la principale raison du réchauffement, sont très rares. Est-ce que tu as d'autres domaines ou d'autres exemples de phénomènes similaires dans la recherche où ça s'est cristallisé puis il n'est plus possible de contrer la tangente?
Ben à part le climat, j'en vois pas. Ben, à l'heure actuelle, dans le climat, là, je peux te donner un exemple de recherche qui contredit le dogme officiel. Quand on a analysé les carottes de glace de la station Vostok en Antarctique, puis des carottes de glace au Groenland, on a trouvé que le CO2 est derrière la température. La température augmente, ensuite le CO2 augmente, et non pas l'inverse. Hein? Les alarmistes disent que c'est le CO2 émis par l'homme qui fait augmenter la température. Quand tu chauffes l'océan, le CO2 qui est dissous dans l'eau va se dégager, et puis plusieurs années plus tard, tu vas avoir une augmentation du CO2 dans l'atmosphère par le dégazage des océans. Ça, il y a très peu de gens qui font attention à ça, mais on a des courbes, on a des graphiques de l'analyse de ces carottes de glace-là, ouais. Des bulles de gaz qui sont dans la glace, le CO2 qu'il y a là-dedans, puis ça suit la température et non, ça ne précède pas la température.
Un climatologue assis avec nous te dirait assurément, ben ça c'est une étude, ça a été débunké, ça a
oui,
été...
Oui, moi je dirais ça n'a pas été débunké, c'est pas vrai. Okay. Les graphiques sont là, les mesures sont là, okay. Les données sont là. Et là j'en viens à l'affaire de tripotage des données scientifiques. Mon collègue et ami Vincent Courtillot, l'ancien directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, a plusieurs fois essayé d'avoir des données brutes de l'université d'East Anglia en Angleterre, okay. Qui est un des gros fournisseurs de données ouais. Météorologiques au GIEC. Ah. Il n'a jamais été capable d'avoir des données brutes. Il a toujours eu des données filtrées, corrigées.
Et ça démontre qu'il y a quelque chose à cacher, parce qu'en science, un des principes fondamentaux, c'est la transparence, puis le partage. Et c'est pas la première fois que j'entends des choses comme ça où les modèles, les fameux modèles là, où, avec lesquels on nous arrive avec des prévisions cataclysmiques sont viciés par des partages qui sont pas adéquats.
Ce que le chercheur doit se poser comme question aussi, c'est quelle est la valeur des données qu'il utilise? Si je te disais que il y a à peu près 75% des données de température des stations météo américaines qui ne sont pas valides, qui ne sont pas valables, parce que ces stations-là sont situées dans des endroits inappropriés, près des aéroports, où il y a des murs de briques, où il y a des pavés d'asphalte ou des trucs comme ça, qui faussent la vraie température. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet d'îlots urbains.
Ben oui, les îlots de chaleur.
Oui, les îlots de chaleur dans les villes. Au fur et à mesure qu'une ville grossit, la ville réchauffe. Elle devient de plus en plus chaude.
Ben on le voit cet hiver. J'ai commencé à l'observer. La région de Québec mange toujours moins la claque que la périphérie quand il y a des changements météo assez drastiques vers le moins sympathique. Là.
Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la qualité des données autant qu'à la quantité. Si tu n'as pas assez de patients pour baser tes conclusions, tu dis, bon, on va pas publier, on va attendre peut-être en un an ou deux où notre étude n'est pas complétée encore. Hein? Puis ça, c'est vrai pour quelqu'un qui étudie les maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, puis quelqu'un qui étudie les virus. C'est vrai dans tous les domaines.
Pas besoin d'avoir un PhD pour se faire une tête sur de grands enjeux comme ça. Il suffit de se renseigner, de réfléchir, de garder l'esprit ouvert et d'écouter des deux côtés. On vous fournit celui-ci de où il y a du scepticisme, c'est toujours sain. Vous pouvez aller à partout taper climat, vous allez avoir de l'autre type d'avis. Merci
oui,
d'avoir fait l'exercice.
Le PhD n'est pas une garantie de probité puis d'honnêteté. Non. Il y a autant de crosseurs chez les scientifiques avec des PhD qu'il y en a dans le reste de la population, toute proportion gardée.
Autant de gens aussi qui manquent d'intelligence. Il n'y a pas juste l'intelligence académique dans la vie, il y a l'émotionnel, il y a l'intelligence aussi de probité personnelle, etc. Et c'est jamais mauvais de le souligner. Merci de nous permettre ça. Renaud Duberger, c'est un plaisir de te jaser. On te suit sur Facebook principalement.
Oui, puis ce que je viens de raconter là, c'est sur mon blog duberger.me. Si vous voulez avoir plus de détails, là, vous allez lire ça. C'est chercheurs qui vous trompent.
Merci, Renaud. On se voit peut-être en fin de semaine, je te dis. Je passe dans le coin.
Ben, viens faire un tour. Téléphone-moi.
Merci. À bientôt.
Peut-être, au plaisir.
Peut-être samedi, sûrement, que je vais passer par là, moi. 17h33, des commentaires?
Ben, tu sais, de ne pas reconnaître qu'il y a une crise climatique présentement, j'ai un petit peu de difficulté.
Il a pas dit ça une fois.
Non, il a pas dit ça. Par contre, il a dit qu'on avait pas mal moins d'influence que ce qu'on pense.
Ouais. Il a dit ça.
Moi, j'ai tendance à penser qu'on a beaucoup plus d'influence que ce qu'on pense.
Tu penses que c'est plus que ce que les climatologues...
Oui. Non, pas plus que ce que les climatologues... Non, mais là où je donne raison aux climatologues alarmistes, tu sais, présentement, on sait que les plus grands pollueurs, c'est quoi? C'est l'Asie?
Non, c'est les États-Unis.
En tout cas, du moins, du côté asiatique, ça pollue bad.
La croissance est là. Nous autres, ça stagne ou ça diminue. La Chine connaît la plus grande croissance. Mais je parle per capita, les États-Unis, c'est le pire.
Ouais.
La Chine, en global, oui, ça bat les States, mais tu sais, ils sont 1,3 milliard.
Et est-ce que tu fais confiance aux informations que tu reçois de la Chine?
Non.
Bon, ben dans ce cas-là, moi, j'ai l'impression que c'est amplifié. Tu sais, j'ai l'impression
il y a plus de CO2 que ce qui est dit.
Moi, c'est mon feeling.
Non, mais ça, les climatologues le prennent en compte, là. Oh oui. Non, les informations puisées de régimes autoritaires, quand tu fais des études scientifiques de sciences dures, sciences pures, t'as pas le choix d'avoir une espèce de...
Concrètement, du smog, il n'avait pas en 1830 à Los Angeles, là.
Il y en avait en 1840 à Londres, mon homme, pas à peu près. Ça a été... revirer de bord, bout pour bout.
Voilà, la révolution industrielle, par contre, avouons qu'on n'avait pas les normes qu'on a aujourd'hui.
Ben, c'est correct d'améliorer les normes.
Moi, et voilà.
Le problème, c'est l'alarmisme avec des dates là, puis des degrés, on le sait, c'est basé sur des modèles du même type, des modèles de Neil Ferguson qui nous disait qu'il va y avoir 60 000 morts au Québec si tout le monde ne reste pas chez eux, puis les masques, puis etc. Ça s'est jamais avéré, mais de son scénario optimiste non plus, c'est jamais avéré.
Et tout comme la COVID, j'aurais tendance à te dire ceux qui ont des convictions et des certitudes sont dangereux.
Ben c'est ça. Tu parles à quelques climatologues que ce soit, quiconque au GIEC, là, qui est le groupe international d'experts en climat, il est dans le dogme. Tu ne peux pas remettre en question quoi que ce soit. Puis en plus, la première chose qui va te sortir, c'est « T'es qui, toi? T'as où ton PhD? »
Ouais.
Ben, y en a un PhD, Rénal Duberger, qui est capable de lire... puis d'analyser ce genre d'études-là
avec des
yeux compétents en la matière. Oui, il est géologue, là. Il n'est pas climatologue, mais c'est des sciences de la Terre et c'est des vases communicants. On va être obligé d'arrêter là-dessus parce que je ne veux pas enlever trop de temps. À Raymond Côté, break dans